des vies et des hommes.
C'est un témoignage difficile que nous allons entendre aujourd'hui, sans voyeurisme, mais pour une prise de conscience et une extrême vigilance. Jonathan Destin est venu raconter sa descente en enfer pendant 6 ans au collège. Jonathan Destin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu en Mayenne le 30 septembre dernier pour alerter sur le harcèlement scolaire.
Oui.
Pour vous, enfant de 10 ans, plutôt réservé, tout a commencé par des réflexions, somme toute, assez désagréable, de la part de vos condisciples. J'ai du mal à les appeler des camarades. Donc ça a commencé comme ça, tout basiquement.
Oui, donc ça a commencé au CM2, à l'âge de 10 ans. Donc par des brimades, des insultes, sur mon nom de famille, beaucoup. Ils me disaient toujours que ton destin est trop gros, d'être nul, tu ne sers à rien. Ça a été même jusqu'à va te suicider, des choses comme ça.
En CM2 ?
En CM2, oui. Puis ensuite, quand je suis passé au collège en 6e, donc là, ça a commencé mais de plus en plus fort.
Avec les mêmes ou avec d'autres ?
Avec certains mêmes élèves du CM2, et puis aussi les nouveaux élèves.
Ouais.
Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un de très timide, très réservé. Je me cachais souvent des autres. Je ne participais pas à des groupes ou des choses comme ça. J'étais toujours un petit peu dans mon coin. Ils ont commencé à m'insulter. Ensuite, c'était les frappes. Dès que j'allais chez le coiffeur, c'était très souvent une tape dans la tête. Pour eux, ça voulait dire, tiens, t'as été déjà le coiffeur. Donc, une petite claque dans la tête. Pendant tous les élèves, c'était comme ça. Surtout dans la récréation ou dans les couloirs. En classe, c'était les coups de combat dans le dos. Donc, des fois, il y avait le professeur qui regardait, ou des fois non. Dès que le professeur regardait, tout le monde s'arrêtait. Et dès que le professeur avait le dos tourné vers le tableau, là, c'était les coups de compas dans le dos, c'était les claques dans la tête, les jets de stylo qui volaient partout. Ce qu'ils appelaient aussi avec un stylo bille, une sarbacane. Ils lançaient des petites boulettes de papier. Et bref, j'en avais partout sur le bureau, j'en avais partout sur moi. Ça amusait, on va dire, la galerie. Ils rigolaient. Après, c'était en récréation. Des fois, il y en avait un qui me donnait une claque, ça partait en bagarre. Ils criaient tous baston, baston, baston. C'était tous les élèves qui se mettaient autour de moi et puis un autre élève qui me tapait dessus. Ils criaient de plus en plus fort jusqu'à que c'était vraiment une vraie bagarre.
Souvent, ils criaient pour encourager en fait,
voilà,
celui qui vous tapait.
Crier, celui-là qui tapait, voilà.
Ouais.
Et donc, au bout d'un moment, le surveillant arrive ou le CPE, ou le directeur, des fois même. De là, tout le monde s'arrêtait. On était convoqués chez le monsieur le directeur. Mais il y avait toujours un ou deux élèves qui étaient convoqués avec moi, donc celui-là qui était l'auteur des faits, puis moi qui étais la victime. De suite, ils me demandaient qui c'est qui avait commencé. Les deux élèves disaient que c'était moi. Et comme c'était plus que moi, ils étaient plus que moi tout seul, donc le proviseur croyait le groupe, voilà.
Donc vous étiez aussi puni par...
Donc j'étais très souvent puni par l'encadrement scolaire.
Mais ça ne s'est pas arrêté là, la descente aux enfers a continué.
Ça a continué. Tous les matins avant d'aller à l'école, j'avais la boule au ventre, j'avais le stress, les angoisses qui montaient, je n'osais plus aller à l'école. Très souvent, mes parents, je disais le matin même, j'ai une gastro, j'ai un rhume, j'ai une grippe, je ne peux pas aller à l'école. Et donc, mes parents m'emmenaient chez le docteur, médecin généraliste. Il découvrait au bout d'un moment que j'avais rien du tout.
Oui.
Donc, je devais quand même aller à l'école. Mais arrivé à l'école, j'ai fait semblant de me casser le bras pour ne plus aller à l'école pendant plusieurs jours. Donc, j'étais carrément aux urgences. Ils ont bien vu qu'avec les radios, je n'avais pas de barre cassée.
Ouais.
Et c'était très, très, très compliqué. Tous les soirs, je pleurais. J'allais dans ma chambre, en rentrant de l'école, je pleurais sans que mes parents m'entendent. Je faisais le minimum de bruit, mais je pleurais toutes mes larmes, des fois une bonne partie de la nuit. Tellement que l'école, c'était un véritable calvaire, un enfer pour moi.
Et après, ça s'est intensifié, il y a eu des raquettes aussi.
Voilà, arrivé en quatrième, donc j'ai décidé d'aller dans un lycée, collège-lycée privé, en pensant que ça allait être mieux, en pensant que ça allait tout changer. Chaque année, chaque fin d'année scolaire, j'espérais que l'année d'après soit meilleure en fait.
Oui.
Que tout allait s'arrêter, que tout le harcèlement s'arrêterait parce que je rencontrerais des nouveaux camarades. Voilà. Chaque début d'année scolaire, je me faisais un ou deux amis, on va dire. Puis, quand ils voyaient que je me faisais harceler, ils passaient dans le camp des harceleurs. Parce qu'ils avaient peur des représailles, tout comme moi, en fait. Donc, après, le racket a commencé. C'était des personnes extérieures de l'école, par contre. Donc, c'était pour moi des adultes. Hein. Mais pas des enfants de l'école. Et donc le premier midi où j'ai eu ça, donc c'est des personnes qui m'attendaient à côté de l'école, dans un parking, une entrée de parking souterrain. Ils m'ont demandé l'heure d'abord. Donc je me suis rapproché, puis ça a commencé comme ça. Comme ils étaient plus grands et plus âgés que moi, et plus, ils étaient à 3 ou 4 des fois. Mmh. Donc il me faisait très peur et donc je tenais mon argent. Des fois il prenait mon cahier de correspondance, il prenait mon sac. Donc quand on arrive à l'école sans cahier de correspondance, on se fait
c'est la punition aussi.
La punition, voilà, oui. Par les professeurs ou par l'encadrement. Donc très souvent mes parents devaient payer un nouveau cahier de correspondance, que sachant que c'est payant. Donc je me faisais engueuler par mes parents puis par l'école. Donc, c'était très très difficile. En cours de sport, c'était là l'un des moments les plus durs parce que c'était il y avait un professeur donc pour toute la classe. Dans les vestiaires, bien sûr, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'adulte. Donc c'est là où je devais me déshabiller, me mettre en tenue de sport. C'est là où je me faisais le plus moquer par rapport à mon poids, mon physique.
Pardon, même en ayant changé de collège, donc, d'autres ont imaginé aussi de faire de vous une victime.
Ça a toujours recommencé. Moi, j'ai toujours mis le dos sur le dos, que c'est le fait que je sois timide, réservé, toujours dans mon coin, que je ne parlais presque à personne. J'étais très timide, en fait. Mm-hmm. Je n'osais pas aller vers les autres, en fait.
Donc, le harcèlement continue, le racket par des gens de l'extérieur, ça continue, ça s'intensifie même.
Ça continue, ça augmente, oui, chaque année. C'est de plus en plus dur. Puis, un jour, le 8 février 2011... je décide de sonner la sonnette d'alarme, on va dire. Je décide de mettre fin à mes jours. Le harcèlement était trop, le racket était de trop. Je n'en pouvais plus, je ne savais plus quelle solution pour alerter les personnes et pour tout simplement me sauver. J'avais peur de me faire tuer un de ces jours. Et par les racketeurs, voilà, le harcèlement, c'était trop, trop dur pour moi. Donc un jour, je rentre, au midi, je passe la matinée en classe. Au midi, en sortant de l'école pour aller manger chez ma mère, je dis à un de mes camarades de classe, peut-être à tout à l'heure, mais pas sûr. Et c'était pour moi décidé à cette heure-là. Dans ma tête, c'était, je devais mettre fin à mes jours, je devais tirer ce grand appel au secours pour arrêter tout ça, je voulais que tout ça s'arrête. Donc je me suis rendu chez mes parents, sachant que mes parents n'étaient pas là, étaient au travail, et j'ai déposé mon vélo. J'étais dans un supermarché, acheté une bouteille d'alcool à brûler et un briquet, tout en pensant qu'à l'arrivée à la caisse, j'allais me faire arrêter par la sécurité. Il y avait un gardien de sécurité qui était juste en face.
Oui, et puis vous n'aviez que 16 ans.
J'avais que 16 ans.
À l'époque,
j'espérais,
oui,
toujours quelqu'un qui m'arrête, en fait.
Oui, c'est l'ambivalence, ça, en fait, de vos sentiments.
Voilà. Et donc, je rentre chez mes parents, je vais dans la cour, dans le jardin. J'ai aspergé un peu le sol, le carrelage d'alcool à brûler. J'ai allumé avec le briquet pour être sûr que c'était inflammable. Puis je me suis rendu à 300 mètres de chez mes parents.
En fait, pardon, vous avez fait un test.
Voilà, j'ai fait un test. Oui. Je me suis rendu à 300 mètres derrière chez mes parents, près d'un fleuve, le canal Ladle, en fait, ça s'appelle. Et de là, j'ai attendu une bonne quinzaine de minutes que personne ne passe. Je voulais mettre en danger personne, ni d'animaux, ni de personne qui promenait son chien, ni d'enfant, ni personne. Et au bout de 10 minutes, quelqu'un est passé avec son chien. J'ai réattendu 10 minutes et là, je me suis aspergé d'alcool à brûler. Et puis, j'ai allumé avec le briquet. Deux fois de là, j'ai vu des flammes de 2 mètres de haut me dépassant. J'ai tout de suite, en quelques secondes de temps, j'ai tout revécu les moments avec, ma famille.
Les bons moments les de bons votre moments. Vie.
Voilà, les anniversaires, les fêtes de famille, tous ces bons moments-là. Ça a tout ravivé dans ma tête en quelques secondes de temps. Et là, je me dis, mince, je suis en flamme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire pour mes harceleurs, en fait. Je suis en train de leur donner raison, je suis en train de me tuer pour eux. Et donc là, j'ai parcouru 200 mètres à pied à peu près. Puis j'ai plongé dans le canal, dans le fleuve. Les flammes se sont tout de suite arrêtées. J'ai commencé à me noyer. Et de là, je me dis, il faut que je me sauve. Il faut que je crie tout ce que je peux, tout ce qui me reste en force pour crier au secours, à l'aide. Et puis, dans la rive en face, il y a quelqu'un qui m'a vu. Au départ, il y avait plein de personnes âgées, parce que c'était tout une résidence de personnes âgées. Et au bout d'un moment, il y avait quelqu'un qui mangeait juste à un moment, qui sont sortis. Donc, les personnes âgées étaient tétanisées. En me voyant, ils ne savaient pas quoi faire. Et puis, au bout d'un moment, c'est la fille à une des personnes âgées, donc une coiffeuse de Marquette de Lille, qui m'a vu et qui a crié à sa belle-fille, « Va chercher une corde, va chercher ce que tu trouves. Il faut qu'on le sauve. » Et donc, là, ils m'ont jeté une rallonge électrique. Un câble, quoi. Ils ont réussi à me rapprocher du bord en attendant que les secours arrivent, le SMUR et les pompiers. Et je me souviens de tout comme si c'était hier. Pour moi, c'est un événement très marquant.
Jonathan Nastin, avant de voir la suite, en tout cas, nos auditeurs comprennent que vous vous en êtes sorti puisque vous êtes là aujourd'hui et que vous témoignez. Comment se fait-il qu'à aucun moment vous n'ayez trouvé une oreille à qui vous confier ou que vous n'ayez osé vous confiez à vos parents, à des instituteurs, quand c'était en CM2 ou au collège plus tard?
Alors moi, j'en ai parlé une fois à mes parents. Quand j'étais donc en CM2, là, c'était des enfants extérieurs d'une autre école qui me jetaient des cailloux quand je passais, en fait. Donc j'étais sur la route et j'en ai parlé une fois à mes parents. Donc ils ont été voir cette école concernée avec ses élèves. Ils ont été très punis par le directeur, etc., convoquer les parents, tout ça. Et puis, le lendemain, j'ai eu un peu ce qu'on appelle les représailles. C'est-à-dire, ils sont carrément venus me taper, ils m'ont jeté des cailloux encore plus. Ça ne s'arrêtait pas. Et donc, après, je n'ai plus, pour ainsi dire, osé parler, mis à part à l'un de mes professeurs une fois, où je lui ai vraiment... C'était en cours de récréation. Donc, je suis monté dans l'étage, j'ai été voir dans la salle des professeurs, j'ai parlé à un de mes professeurs principaux. Et là, j'ai tout déballé. J'ai tout raconté, ce que je vivais au quotidien, l'enfer, tout ça.
Et là, vous étiez en quelle classe, pardon?
J'étais en cinquième.
En cinquième, oui.
Et de là, le professeur, il m'a dit, ils font que s'amuser avec toi, donc va jouer avec eux.
Pardon?
Il m'a dit, répondu, ils font que s'amuser avec toi, donc va jouer avec eux. C'était pour moi la réponse à ne pas dire. J'ai eu cette impression que le professeur n'avait rien à faire, clairement. Qu'il avait autre chose à penser ou que je ne sais pas. C'était la phrase de trop. Ça a été où je me suis senti complètement incompris, je me suis senti...
Trahi?
Tout seul, oui, tout seul.
Trahi face, par les adultes, en fait, qui étaient censés vous protéger.
Tout seul par... trahi par le corps enseignant. Et je me suis senti seul contre tout ça, en fait, tout simplement.
Oui, on peut comprendre.
Je me suis dit, si le corps enseignant ne me comprenne pas, ne m'écoute pas, c'est que... Ben voilà, le harcèlement...
C'est que la seule solution, c'était à vous de la trouver finalement.
Voilà, tout à fait.
D'où ce geste au mois de février.
Voilà.
Et dans tous ces petits gestes du quotidien qui étaient dirigés contre vous, que ce soit en CM2 ou un peu plus tard, quand vous parliez des coups de compas, etc., c'est quand même difficilement imaginable de se dire qu'aucun des éducateurs n'ait eu la puce à l'oreille. On ne parle pas de celui qui vous a envoyé balader, mais les autres, personne n'a jamais...
Non, personne n'a jamais vu, on va dire, ou je ne sais pas trop.
Et le médecin généraliste que vos parents vous emmenaient voir quand vous aviez des gastro ou des rhumes ou des je ne sais quoi, ou se bras cassé, aucun des médecins que vous avez vus n'a eu l'attention attirée non plus en se demandant mais pourquoi cet enfant ment pour ne pas aller à l'école.
Il n'y a que mon kinésithérapeute, parce que j'ai beaucoup de problèmes de dos,
Ouais.
Et donc, je faisais du kiné à peu près 3 fois par semaine. Donc, le week-end, le mercredi, après l'école à chaque fois. Et donc, elle a vu que j'avais beaucoup de bleu sur le corps. Donc là, ça l'a vraiment alerté. Mais moi, je trouvais toujours, quand elle me posait la question « Pourquoi tu as des bleus sur le corps ?» Je disais toujours qu'en fait, j'étais tombé de vélo, tombé de roller. Je faisais beaucoup de sport. Et donc, je trouvais toujours un peu une excuse, on va dire, pour couvrir mes harceleurs. Elle a voulu alerter mes parents.
Ouais.
Et là, encore une fois, à chaque fois, je cachais beaucoup de choses. Je cachais tout pour pas que mes parents soient au courant et pour pas avoir de représailles le lendemain ou le surlendemain.
On voit bien, Jonathan Dessin, que c'est un cercle infernal,
oui.
Finalement. Dès qu'il y a une ouverture, en fait, elle se referme
tout
aussitôt. Donc, c'est un témoignage très difficile. Vous avez d'ailleurs écrit un livre.
Oui.
Un téléfilm a été tourné à la suite de ce livre. Alors, votre livre, il s'appelle « Condamné à me tuer ».
Oui.
Et le téléfilm qu'on doit pouvoir voir en replay, hein, certainement, qui a été réalisé par Christophe Lamotte, hein, s'appelle « Le jour où j'ai brûlé mon cœur ».
Oui.
C'est un titre... Enfin, les deux sont des titres très évocateurs. Hein. Aujourd'hui, vous témoignez. Donc déjà, vous avez écrit ce livre, vous témoignez. Qu'est-ce que vous cherchez à faire en témoignant ? Quelle était votre motivation en écrivant cette histoire ?
Alors moi, en témoignant dans les écoles, en témoignant devant les médias, tout ça, c'est pour aider les autres. Déjà pour que les choses bougent, tout simplement. Et pour que moi, j'ai toujours un rêve en tête, c'est qu'un jour, le harcèlement s'arrête. Ça a toujours été un rêve, une petite chose...
Une belle chose, c'est pas une petite chose, hein. C'est une belle mission que vous vous donnez.
Et donc, en intervenant dans les écoles, en intervenant devant les médias, pour moi, il faut en parler, le harcèlement scolaire, il faut pas laisser ça passer. C'est en parlant pour moi qu'on peut faire bouger les choses, que ça pourra s'arrêter peut-être un jour.
Est-ce que vous avez eu des contacts avec vos harceleurs ?
Non, pas mes harceleurs propres à moi. Par contre, un jour, j'ai eu une personne de Lyon, donc une personne qui était harceleur, et qui m'a expliqué d'abord dans une lettre, puis a souhaité me rencontrer. Et qui m'a dit, en fait, clairement, quand je vous ai vu à la télévision, dans certains reportages, la première fois que je vous ai vu, j'étais en train de dîner avec mes parents, et je suis tombé par terre. J'ai fait une espèce de malaise vagal, il m'a dit.
Oui, vraiment, c'est pas une image de dire qu'il était tombé par terre.
Et en fait, c'est rendu compte que... avant, il ne savait pas tout le mal qu'il faisait en harcelant les autres. Et en voyant mon témoignage... Il s'est aperçu tout de suite que c'était pas bien ce qu'il faisait.
Il a pris conscience,
Ouais,
du mal.
Voilà. Et là, il m'a dit, quand il m'a vu, il m'a dit il faut que j'arrête tout ça, en fait. Personne ne lui a jamais dit que c'était pas bien ce qu'il faisait. Personne ne lui a jamais rien dit.
C'était un jeune, non ?
Oui.
Et à l'époque, il était donc vraiment harceleur.
Voilà, il était au lycée, il harcelait les autres. Et personne ne lui a jamais dit que c'était pas bien. Personne n'en a jamais parlé. Lui, il insultait les autres, il pensait que c'était en jouant, comme il disait toujours. Mais en fait, il ne se rendait pas compte du mal qu'il faisait.
J'imagine que pour vous, c'était un cadeau quand il vous a dit ça.
Voilà, quand il m'a contacté, moi j'ai dit tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on parle en métier, il faut qu'on fait bouger le monde. Parce que si tous les harceleurs pensent ça, c'est que voilà, il y a un véritable problème et qu'il faut en parler justement.
Ce qui est parfois surprenant, c'est qu'en fait, on a l'impression que les harceleurs sont finalement des enfants normaux, ce ne sont pas des monstres.
Bah
ça se voit pas, ce sont des enfants gentils, agréables en famille, etc. Comment est-ce que vous expliquez que ces enfants gentils, normaux, bien élevés, avec des valeurs, hein, sans doute, deviennent des harceleurs ?
Ça peut démarrer n'importe comment et en faisant n'importe quoi. Un jour, on se moque de quelqu'un et ça peut tout de suite virer en harcèlement scolaire. Mais si personne ne dit que c'est pas bien en insultant, qu'il insulte les autres, mais personne ne lui a jamais dit que c'était pas bien, il s'en rend peut-être pas compte. Il insulte, il croit que c'est pour rigoler, puis c'est tout.
Ouais, en fait, ça ne fait rire que lui.
Voilà. Mm-hmm. Alors que quand on voit quelqu'un qui se met à pleurer ou qui souffre, il faut tout de suite réagir, tout de suite arrêter les choses et en parler.
Il y a sans doute aussi l'effet de groupe, et vous avez évoqué, Jonathan Destin, qu'à un moment, au début de l'année, vous aviez souvent quelques camarades qui finissaient par basculer dans l'autre camp, dans le camp des harceleurs. Et c'était sans doute effectivement parce que là, du coup, un peu l'effet d'entraînement, l'effet de groupe, et pour ne pas être eux aussi cibles.
Voilà, pour ne pas être pris à partie par les autres. Et oui, voilà, ils veulent faire partir du camp des harceleurs, on va dire, pour éviter d'être frappés à leur tour ou d'être harcelés à leur tour.
On a pu dire de vous, enfin j'ai regardé un petit peu les commentaires suite à vos témoignages, etc., que vous avez été très courageux. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ?
Ben, moi j'ai envie de répondre que c'est comme si je ferais que mon boulot en fait.
Je pense que les gens parlaient, les commentaires concernaient le courage d'avoir supporté ce que vous avez supporté. Est-ce que vous vous trouvez courageux d'avoir supporté ça toutes ces années ?
Oui, pour moi, oui, je suis courageux. Après, il y en a beaucoup comme moi, je pense. Et c'est pour ça qu'il faut leur en venir en aide tout de suite, en fait. Donc, il faut en parler. Pour moi, le harcèlement, il faut en parler, il faut arrêter les choses.
Et justement, vous témoignez beaucoup dans les écoles. Mmh. Et en dehors du témoignage de ce jeune à Lyon, vous avez l'impression que ça résonne chez les jeunes?
Oui, pour moi, ça commence à bouger. Même si pour moi, ce n'est pas encore assez, hein, bien sûr. Ça bouge tout doucement et il faut continuer dans cette voie-là. Il faut continuer d'en parler. Il y a des associations pour ça. On peut en parler ou même à ses parents, à quelqu'un qui en a confiance.
Mais peut-être que les enfants auront peur d'aller en parler à leurs parents pour qu'ils n'arrivent pas à la même mésaventure qu'à vous, ou finalement ça se retourne contre eux.
Oui, mais c'est pour ça que moi, je dis vraiment, il faut quand même se forcer à parler. Il faut aller voir quelqu'un. C'est comme ça qu'on fera bouger les choses, qu'on arrêtera tout ça.
Peut-être que la réaction du directeur de ces harceleurs n'a pas été tout à fait correcte.
Oui.
Ça veut dire qu'ils ont été punis, mais ils n'ont pas forcément réalisé ce qu'ils faisaient, en fait.
Oui, voilà.
Donc ça veut dire qu'il y a une éducation aussi à faire du côté du corps enseignant et des équipes éducatives.
Oui, pour moi, oui. Que ce soit des parents, que ce soit du corps enseignant, c'est tout le monde, il faut qu'on...
Votre idée, c'est de sensibiliser,
oui.
De rendre vigilants,
oui,
tous ceux qui sont en lien avec les enfants pour que ça s'arrête très vite.
Oui, voilà, il faut continuer d'en parler tout le temps et encore. C'est comme ça que ça s'arrêtera.
Jonathan Destin, merci beaucoup d'abord de venir témoigner de ce sujet ô combien douloureux. Aujourd'hui, vous avez 26 ans. Cet appel au secours, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure en vous immolant par le feu, c'était il y a 10 ans.
Oui, tout à fait.
Quel chemin avez-vous parcouru depuis ? Alors, vous avez des traces physiquement ?
Oui, bien sûr. Oui, au niveau physique, j'ai des traces. Au niveau psychologique aussi, bien sûr.
Oui, vous vous sentez encore fragile sur ça ?
Certains points, oui. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je continue une thérapie qui s'appelle la thérapie cognitive. C'est comme pour les victimes d'attentats. Voilà. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas. Ça m'aide à avancer. Et même en parlant dans les écoles, c'est une thérapie pour moi. Ça m'aide à avancer. Voilà, après, je me dis, tant que je peux aider rien qu'une personne dans une classe à parler ou à trouver le chemin, le bon chemin, ou à arrêter ce qu'il fait en tant que harceleur, ou voilà, c'est ce qui m'aide à avancer, moi, en fait. Donc, pour moi, c'est une récompense dès que je suis dans une école.
Jonathan Destin, juste une toute petite question. Vos parents, quand ils ont pris la mesure de ce que vous aviez vécu toutes ces années, ils ont dû être bouleversés.
Alors moi, mes parents m'ont su que 2 mois et demi après ma tentative de suicide, quand je me suis réveillé du coma.
Parce que parce qu'on est passé très vite, pardon, mais vous avez été effectivement dans le coma et tout ça.
Je n'ai laissé aucune trace, je n'ai laissé aucun indice, on va dire. Et donc, ils l'ont su 2 mois et demi après mon coma artificiel. Quand je me suis réveillé, au total, ça a pris à peu près 1 an avant qu'ils savent tout. Au départ, j'avais une trachéotomie, donc je ne pouvais pas parler. Et au fur et à mesure des semaines, j'ai réussi à tout leur dire, mais ça a pris beaucoup de temps. Donc ils s'en sont beaucoup voulu. Ça a pris du temps avant de tout leur dire et d'arranger les choses, on va dire.
Alors qu'effectivement, ils n'étaient, eux, coupables de rien.
Rien du tout.
En fait, hein. Mais vraiment. Et on sent bien comment les parents peuvent être démunis devant un malaise, devant le malaise de leur enfant qu'ils n'identifient pas. Et on est loin de s'imaginer. C'est comme beaucoup de choses, en fait, le harcèlement scolaire, c'est, ce sont les autres qui sont victimes, ce sont les autres qui sont coupables. Ça ne peut pas concerner nos enfants. Eh bien, si, en fait.
Ça peut concerner tout le monde.
Et c'est vraiment ce que vous êtes venu dire en Mayenne, Jonathan Destin, à l'invitation, entre autres, de l'UDAF, mais au-delà de ça, en fait, du préfet de la Mayenne et du recteur d'académie qui voulait vraiment que ce sujet soit évoqué et abordé. Donc, un grand merci d'avoir pris aussi ce temps pour témoigner auprès de nos auditeurs, dont les enfants sont potentiellement concernés par le harcèlement d'un côté ou de l'autre. Et merci donc de nous appeler à cette vigilance. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de conclusion ?
Tout simplement qu'il faut en parler, qu'il ne faut plus se laisser faire et il faut faire bouger les choses.
Merci beaucoup, merci Jonathan Destin. Et je rappelle le titre de votre livre, « Condamné à me tuer » aux éditions
XR Document.
Et le téléfilm « Le jour où j'ai brûlé mon cœur ». Donc ce sont des témoignages assez émouvants, bien sûr, mais qui permettent de mesurer effectivement l'ampleur d'une petite moquerie qui paraît anodine et qui ne l'est pas du tout.
Tout à fait.
Donc merci beaucoup.
Merci.